C'est vrai, il y a des écrivains, des musiciens, des comédiens, des éthologues.
Des ethnologues, des dessinateurs, des sculpteurs de géants, des danseurs, des arachnophobes.
Et j'ai le sentiment que cet homme s'ennuie beaucoup avec lui-même.
Chaque soir.
Alors je vais chanter une chanson que je vais chanter pour l'instant.
Chez nous.
Qu'à ma copine.
C'est chez vous.
Déconcertant.
N'importe quand, quand vous voulez, je vais venir.
Ouvert la nuit.
Du lundi au vendredi.
C'est tout.
À partir de 21h. France Inter.
La différence.
Et c'est l'heure de la bassie, j'y suis avec Daniel Mermet et le répondeur.
Tu sais, hier, j'ai eu la chair de poule en entendant les messages sur la boîte vocale, sensible à tout ce qui a été dit. Laisse-moi te raconter mon histoire. Je suis née algérienne, bientôt 30 ans. Je suis française depuis 2 ans. Mon histoire est celle de mon grand-père maternel. Militaire dans l'armée française, musulman, il mangeait du sang doux sous la neige pour ne pas crever. Et pourtant, il était venu là pour mourir, pour la France. Mon histoire est aussi celle de mon père. Universitaire, il a participé à la victoire de son peuple, de l'Algérie libre. Mon histoire, c'est la mienne, celle d'une idéaliste, qui ne se sent pas obligée de porter le fardeau de ceux qui l'ont précédé. Je préfère le laisser, bien en vue, dans mon cœur, pour ne pas oublier qui je suis, ni d'où je viens. Je le vois chaque jour, en espérant que mes enfants n'aient pas à le porter non plus. Ce que j'aimerais leur dire, c'est de garder un pied dans le présent pour ne pas tomber. Faire des allers-retours dans le passé pour ne pas oublier. Penser fort à leur avenir en évitant les erreurs du passé. Ce que j'aimerais leur dire, c'est que nous sommes franco-algériens, fiers de notre histoire et conscients de nos erreurs, n'occultant rien. Voyons les boulets que nous traînons, ici et là-bas. Car sans les voir, nous ne pourrons jamais nous en défaire. C'était la mienne.
J'entends parler beaucoup au téléphone là, des gens qui critiquent qu'on ait commémoré tous ces anniversaires pour le massacre des Algériens. Mais j'aimerais bien que ces gens-là aussi se rappellent qu'on doit aussi notre liberté à pas mal de nos Algériens. Il n'y a qu'à voir les cimetières de Lorette, par exemple, pour la guerre 14-18, où le cimetière ne comporte pratiquement que des monuments musulmans, que des tombes musulmanes. Et puis, en 1945 aussi, le cimetière de la poche de Colmar, Sigolsem, où la majorité des tombes est aussi musulmane. Bon, bah, tous ces gens-là, on les a pris pour combattre pour notre liberté. Certains étaient d'accord, mais d'autres ont été un peu enrôlés de force. Alors j'aimerais bien que les gens qui ne sont pas d'accord avec les commémorations de 61 aillent visiter ces cimetières.
Bonjour Daniel, c'est Daniel. Je vous remercie pour cette émission. Je remercie aussi respectueusement M. Stora. C'était une émission très intéressante. Mais alors, quel gâchis pour tout le monde.
Bonjour Daniel. Moi aussi, je me réjouis à l'annonce de la liberté du soldat Chalit. Petite remarque, ce brave soldat faisait du tourisme à Gaza avec son char. Malheureusement, des terroristes l'ont kidnappé. On l'a libéré en échange des prisonniers palestiniens qui séjournaient dans les hôtels israéliens depuis des dizaines d'années. Ce brave soldat est franco-israélien. Mais il y a un autre prisonnier, franco-palestinien. Mais ce dernier reste en prison parce qu'il est d'abord palestinien avant d'être français.
Bonjour, Arnaud Montebourg est contre la mondialisation, mais il va à contre-courant. En fait, il faut mondialiser au maximum les choses. Mondialiser la lutte contre la fraude fiscale, mondialiser la protection sociale, mondialiser le droit à l'instruction, mondialiser tout ce qui a fait les progrès dans les sociétés européennes qui maintenant se trouvent en concurrence avec des pays où ces critères-là ne sont pas tenus en compte, et ben on n'a qu'à exporter nos savoir-faire, on mondialise, et puis là tout le monde sera à égalité. Donc ce n'est pas la démondialisation qu'il faut mettre en œuvre, c'est la mondialisation des protections de tout ce qui était acquis par les luttes en Europe. Au revoir.
Merci pour tous ces messages, chers AMG, merci, merci mille fois. Imaginez, maintenant, nous sommes tous dans le même bateau et nous devons reconstruire le bateau tout en continuant de naviguer. Eh bien, ça, c'est ce qui arrive aux Tunisiens. Ils sont en train de reconstruire le bateau appelé Tunisie, tout en étant évidemment obligés de continuer de naviguer. Naviguer, se demandent les Tunisiens, mais dans quelle direction, pourquoi faire? Voilà les questions qu'ils se posent. Qui va prendre la barre? Quel équipage? Quel capitaine? Voilà pourquoi les Tunisiens vont voter dimanche prochain, le 23 octobre 2011, pour la première fois de leur histoire. Ils vont élire une assemblée chargée de rédiger une nouvelle constitution. Et ce n'est pas vraiment simple. C'est passionnant, c'est exubérant. 11 686 candidats, 1621 listes déposées, c'est un record. On ne sait pas du tout comment ça va se dérouler et on ne sait pas du tout quel sera le résultat. Voilà pourquoi nous sommes là, là-bas, si j'y suis, on n'est pas les seuls journalistes intéressés par ce qui se passe ces jours-ci en Tunisie jusqu'à dimanche. On dit que les résultats ne seront connus que lundi. En tout cas, c'est un moment absolument passionnant, évidemment, et on retrouve nos vieux amis tunisiens que nous avions rencontrés il y a plus de 10 ans déjà, comme le temps passe. Pendant ce temps-là, bien sûr, là-bas, si j'y suis, ne vous abandonne pas. Aujourd'hui, on vous propose de revenir sur une émission qu'on vous avait proposée au début 2009 sur le lobby pro-israélien, suite à la publication du fameux livre de Walt et Mersheimer sur ce lobby pro-israélien et notamment sur l'America-Israel Public Affairs, c'est-à-dire sur les PAC, ce fameux lobby américain pro-israélien. Pourquoi ? Eh bien, vous le savez, le 3 octobre, France 2 diffusait dans la série « Un œil sur la planète » un sujet sur « Un État palestinien est-il encore possible ?» Et la diffusion de ce reportage a valu à ses auteurs et à France 2 des bordées d'injures et des menaces physiques sur les journalistes, notamment, qui ont participé à cette émission. Vous avez suivi sans doute cette affaire. Et le passage mis en cause concerne justement les PAC, concerne justement ce lobby pro-israélien. Voilà pourquoi nous revenons sur ce reportage que nous vous avions proposé début 2009. Lobby pro-israélien voyage autour d'un tabou. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de là-bas si j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Après Lénine, mais avant François Ruffin, pour la troisième fois, les AMG du repère de là-bas si j'y suis de Clermont-Ferrand se poseront la question « Que faire ?» Ce sera jeudi 20 octobre à 18h au Baroque Café, boulevard Trudaine, à Clermont-Ferrand. Merci.
Bonjour Daniel, ici donc une salariée pour l'emploi de Bretagne. Donc c'était pour appeler au secours. Nous sommes en grève depuis plus de 10 jours. Nous n'avons pas le sentiment de pouvoir être entendus. Nous sommes contre le traitement fait aux demandeurs d'emploi, contre la productivité et la politique des chiffres. La Bretagne se mobilise, les salariés en ont ras-le-bol. Donc on ne peut pas laisser de coordonnées puisqu'on nous a coupé les lignes de téléphone. Nous n'avons plus que le 39-49, c'est une honte. Faut qu'on parle enfin de nous. Merci.
Salut Daniel, salut les AMG. Ici c'est Patrice de Donfront qui vous annonce une bien triste nouvelle. La fermeture définitive du café-restaurant Le Goût des Autres à Saint-Georges-de-Roualais dans le Sud-Manche. Encore un lieu alternatif et créatif, sacrifié sur l'autel de l'économie. Un grand merci à Alim et Brigitte, hôtes et hôtesses du lieu, qui non seulement ont régalé nos palais pendant 6 ans, mais aussi et surtout ont permis de belles rencontres et favorisé des amitiés nouvelles. Alors, pour clore en beauté le chapitre Le Goût des Autres, venez nombreux à 20h30 à notre repère du jeudi 20 octobre à Saint-Georges-de-Roualais, où nous diffuserons le film Bernard, ni Dieu, ni chaussettes de Pascal Boucher, débat animé par François Davous, conseiller général de la Manche.
Le groupe communiste Front de Gauche du Sénat vient de déposer pour la troisième fois une proposition de loi qui dispose que la France reconnaît officiellement répression et massacre du 17 octobre. À suivre. Régis, de Nîmes.
Bonjour Daniel. Lu dans le numéro de Ouest-France du 17 octobre, en Grèce, le taux de suicide était en forte augmentation. Tout comme le tabac, le libéralisme tue. On vous l'avait bien dit, arrêtez de fumer.
It is wonderful being here with all of you among
Sénatrice Hillary Clinton, 4 juin 2008.
So many friends.
C'est merveilleux d'être ici avec vous parmi tant d'amis.
And et I feel like this is a giant family reunion.
J'ai l'impression d'être dans une immense réunion de famille.
The largest APAC gathering in history, and I feel like I am among family. And thank you for the warm welcome.
Le plus grand rassemblement de l'APAC dans l'histoire, et je me sens comme à la maison. Et merci pour l'accueil chaleureux.
I'm very happy to be with you, and it's always a pleasure.
Sénateur John McCain, 2 juin 2008.
To speak before this magnificent and wonderful and very important organization.
Je suis très heureux d'être avec vous et c'est toujours un plaisir de parler devant une organisation aussi merveilleuse et fantastique et importante.
Just as America is deeply fortunate to have a close friend in Israel.
De la même façon que les États-Unis ont la chance d'avoir un aussi bon ami qu'Israël.
Israel is privileged to have a supporter in APAC.
Israël a le privilège d'avoir le soutien inconditionnel d'APAC.
And I know that when I visit APAC,
et je sais que quand je viens à APAC,
I'm among friends.
Je suis chez des amis,
good friends.
De bons amis.
Sénateur Barack Obama, 4 juin 2008.
Friends who share my strong commitment to make sure that the bond between the United States and Israel is unbreakable today.
Des amis engagés à faire en sorte que le lien entre les États-Unis et Israël ne puisse être rompu. Ni aujourd'hui,
unbreakable tomorrow,
ni demain,
unbreakable forever.
Ni jamais.
Est-ce qu'il serait possible aux États-Unis qu'un candidat soit élu s'il manifestait son soutien à la cause palestinienne dans n'importe quel poste aux États-Unis?
History says no.
L'histoire dit
one
que non.
One or two have and they lost.
Il y en a un ou deux qui ont essayé, ils ont tous perdu.
Salut, c'est Daniel Mermet, c'est la Bassie, j'y suis avec Guy Van Til. Le lobby pro-israélien voyage autour d'un tabou.
Flight number 2, arriving from New York.
Your love and support for the state of Israel ensures that the alliance between Israel and the United States is never taken for granted.
If you really want to make a meaningful difference, APAC is the place to be.
There is much work to be done, and only us to do it.
My name is Stephen Walt. I'm a professor of international affairs at Harvard University.
Je suis professeur de politique internationale à l'université de Harvard, ici à Boston.
My co-author, the book was John Mearsheimer, who is also a professor of political science at the University of Chicago.
Et mon co-auteur, c'est John Mearsheimer, qui lui est professeur de sciences politiques à l'université de Chicago.
Alors donc, vous êtes les auteurs du lobby pro-israélien. On va parler de ce livre. Mais avant de voir de quoi vous parlez, on va essayer de savoir qui parle. Est-ce que vous pouvez faire votre portrait presque idéologique ou politique? Est-ce que vous vous situez plutôt comme des conservateurs, comme des démocrates? Quels sont vos présupposés idéologiques? C'est intéressant de le savoir pour savoir qui parle.
Let me say several things. Both Professor Mearsheimer and I are, I would say, mainstream centrist intellectuals and political figures.
Mearsheimer et moi, on est tous les deux des gens tout à fait mainstream, c'est-à-dire dans le courant, dans l'idéologie dominante, centriste.
Yeah. I have voted for Republicans and Democrats at different times in my life.
J'ai voté parfois pour les Républicains, mais j'ai aussi voté à différentes élections pour les Démocrates.
We are not radicals of either the left or the right.
On n'est pas des extrémistes, des radicaux de gauche ni de droite.
Vous nous rassurez.
which is why our book got so much attention.
Et c'est pour ça que notre book a attiré tellement d'attention.
Because here were two very respectable people from two very distinguished universities.
Parce qu'on était deux gens tout à fait respectables, de deux universités particulièrement fameuses.
Saying something that nobody else had been willing to say, or very few people had been willing to say.
Et qu'on disait depuis cette position-là des choses que très peu de gens, si ce n'est personne, n'avaient osé dire jusqu'auparavant.
C'est comme l'éléphant qui est au milieu du salon et dont personne ne parle. Cet éléphant, on peut l'appeler EPAC, American Israeli Public Affairs Committee. EPAC. Vous avez entendu McCain, Hillary Clinton et Barack Obama faire allégeance, faire discours chaleureux de soutien et de promesses au lobby le plus puissant concernant les affaires israéliennes, qui est donc l'EPAC. Un éléphant au milieu du salon dont personne ne parle, jusqu'au jour où ces deux universitaires, John Mersheimer et Stephen Walt, l'un, Mersheimer, professeur de sciences politiques à l'Université de Chicago, et Walt, professeur de relations internationales à Kennedy School of Government d'Harvard, et se sont décidés à regarder un peu comment fonctionne, qu'est-ce que c'est que ce lobby pro-israélien. J'insiste tout de suite et je le répéterai sans cesse, il ne s'agit en aucun cas, et les auteurs ont pris évidemment la précaution tout de suite dès l'entrée de leur texte de bien préciser qu'il ne s'agit pas du lobby juif qui n'existe pas, mais du lobby pro-israélien qui existe bel et bien, qui existe parmi tous les autres lobbies aux États-Unis. Vous le savez, la démocratie américaine fonctionne ainsi. À Washington, D.C., il y a des centaines et des centaines de lobbies et des milliers de lobbyistes qui représentent des intérêts extrêmement divers d'entreprises, de groupes ethniques, de religions, de syndicats. Tout le monde peut se faire représenter à travers ces lobbies qui ont pour rôle d'intervenir, de faire pression sur les élus, sur les congressistes, les sénateurs et les représentants, bref, sur le pouvoir, par des moyens qui sont transparents. Il n'y a pas de complot, il n'y a pas en principe d'opacité, mais il s'agit pour chacun de ces groupes de faire pression pour obtenir évidemment que les lois aillent dans le sens des intérêts de ces groupes. C'est le système des lobbies américains. Évidemment, pour nous, lobby, c'est très péjoratif, c'est une connotation négative, même si on avait montré comment ces lobbies opèrent bel et bien et avec quelle force au niveau de l'Union européenne, à Bruxelles, et commence à opérer avec beaucoup de force aussi sur la scène politique française, même si il faut contourner et se déguiser précisément à cause de cette connotation péjorative. Mais aux États-Unis, c'est tout à fait ouvert et tout à fait bien. Il faut rappeler que dès qu'ils ne sont plus en fonction, les congressistes deviennent des lobbyistes avec évidemment les carnets d'adresses qu'ils se sont faits et la connaissance de l'intérieur qu'ils peuvent avoir de la façon dont s'exerce le pouvoir et s'élabore les lois. Le lobby qui nous intéresse, le lobby pro-israélien, essentiellement c'est l'EPAC. On verra bien qu'il y en a d'autres qui sont autour. L'EPAC, c'est 100 000 membres à travers les États-Unis, c'est 165 salariés, c'est un budget annuel de 45 millions de dollars. On ira avec Guy, on ira au siège social de l'EPAC à Washington, D.C. L'EPAC a des bureaux dans la plupart des États des États-Unis. 70 associations sont affiliées à ce lobby et il revendique 4 millions d'électeurs dans les États clés des États-Unis. Donc c'est dire, c'est quelques indications sur la puissance de ce lobby. Ce lobby fait pression et, un peu comme chez nous, menace ceux qui s'approchent d'un peu trop près et sont très critiques. Menace de quelle façon? Eh bien, comme ici, menace d'antisémitisme, de procès en antisémitisme. Tous les moyens sont bons pour écarter les curieux et les stigmatiser. Or, ces deux professeurs, Mersheimer et Walt, eh bien, ils ont tenu droit dans leurs bottes. Ils ont travaillé à ce livre qui est une longue recherche extraordinairement bien documentée, extraordinairement bien articulée, qui a, je l'ai dit en commençant, eu un grand retentissement. Ça leur a valu des critiques très nombreuses, évidemment la critique, le procès en antisémitisme, mais ils ont tenu bon et finalement les choses se sont inversées, on peut dire, en leur faveur. Ils ont réussi à calmer le jeu, à ce que le débat s'ouvre beaucoup plus, à faire prendre conscience de beaucoup de choses aux médias américains, à une série d'intellectuels américains, au point aujourd'hui qu'ils sont à la base, où ils ont inspiré un nouveau lobby qui s'appelle J Street et qui est en train de se développer avec des visées beaucoup plus pacifistes, on va dire, et qui entend, celui-là, œuvrer pour la paix au Proche-Orient. Voilà quelques éléments. On est ensemble jusqu'à 16h. C'est là-bas, si j'y suis, le lobby pro-israélien voyage autour d'un tabou.
Reprenant le fil des événements,
BFM TV,
on a l'impression quand même,
22 septembre 2011,
qu'on est face à un recul net de Barack Obama quand on se souvient de l'espoir qu'il avait fait naître après son élection.
Un espoir qu'il a lancé principalement dans le monde musulman. C'était son discours du Caire en 2009 et il a annoncé un État pour les Palestiniens.
Les Israéliens doivent reconnaître que tout comme le droit d'Israël à exister ne peut être nié, ce droit pour les Palestiniens ne peut être nié non plus. Nous devons en finir avec la colonisation israélienne.
Voilà. Et en 2011, voilà que tout change pour lui. Benjamin Netanyahou vient aux États-Unis, parle au Congrès, c'est le succès fou. Et à partir de ce moment, Obama ne demande plus aux Israéliens d'arrêter de s'implanter un peu partout et de rendre la chose inextricable.
Les Palestiniens méritent de connaître les frontières de leur État. Je sais que beaucoup d'entre eux sont frustrés par le manque de progrès. Mais je suis convaincu qu'il n'existe pas de raccourci à la fin d'un conflit qui dure depuis des décennies. La paix est un travail compliqué. La paix ne viendra pas de déclarations et de résolutions des Nations Unies. Si c'était aussi simple, cela aurait déjà eu lieu à l'heure actuelle.
Our primary reason for writing the book was that we felt the Israel lobby was pushing policies that were harmful for the United States. And we also felt that these policies were not good for Israel as well.
Non, la première raison, c'était vraiment parce qu'on a vu que ce lobby pro-Israël militait pour une politique qui était néfaste aux États-Unis et qui n'amenait aucun bien non plus en Israël.
Ça, c'est votre hypothèse de départ.
That's correct. We wanted to write the book because there was a taboo subject
Est-ce qu'il y avait un tabou? C'est pour ça qu'on voulait faire ce livre.
Vous vous êtes dit ensemble,
là, il y a un tabou, on va se mettre à travailler là-dessus. Ou bien est-ce que ça a été une
ouvertement de
comment
cette situation?
Comment ça s'est fait? Quel a été le vrai point de départ?
Many people, like many Americans, began to pay pro-Israel very close attention to American lobby like APAC. We're very powerful politically.
Comme beaucoup d'Américains, on a s'intéressé de très près à la politique Proche-Orient, américaine. Après, les gens qui voyaient que ces groupes comme l'APAC, les groupes d'intérêt, était très puissant dans l'orientation de la politique américaine au Proche-Orient.
Most people in our special relationship with Israel policies, and the main reason we had a special relationship with Israel was the political influence of the Israel lobby.
Mais la plupart des chercheurs moyens n'allaient pas écrire ni s'exprimer publiquement, n'osaient pas en tout cas le faire.
Pourquoi
les États-Unis étaient si mal vus dans cette région du monde?
N'osaient pas, et ils ont osé. Mersheimer et Walt, ces deux chercheurs, donc ont osé s'interroger sur, par exemple, le fait qu'entre 1972 et 2006, Washington a mis son veto à 42 résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU, résolutions critiquant la politique israélienne. À chaque fois, Washington a mis son veto. Chaque année, Israël continue de recevoir 3 à 4 milliards de dollars d'aide américaine, soit un sixième de l'aide étrangère des États-Unis. Pourquoi ces faveurs? Pourquoi ces soutiens? Soutien financier, soutien militaire, soutien technologique, soutien diplomatique. Ils se sont simplement posé la question. Encore une fois, ils le disent d'entrée de jeu dans leur livre, ils sont pro-israéliens, donc on ne peut pas leur dire qu'ils mettent en cause l'existence d'Israël, c'est absolument pas leur but, ils posent simplement des questions sur la puissance de ce lobby. Lobby qui est l'un des plus puissants aux États-Unis. Il y a parmi les plus influents la NRA, National Rifle Association of America, c'est-à-dire la défense des armes à feu, de la possibilité pour chacun de porter son arme à feu. Très près, dans les plus gros lobbies aux États-Unis, l'American Association of Retired Persons, c'est-à-dire les retraités. Mais tout de suite, tout en tête, il y a les PAC, donc American Israel Public Affairs Committee. C'est donc la puissance de ce lobby, et comme il était important et intéressant que des chercheurs mainstream, plutôt conservateurs, absolument ne mettant absolument pas en cause l'existence d'Israël, mais s'interrogeant sur le rôle de ce lobby, s'engage dans ce travail. Eh bien, au pays de la liberté et de la liberté d'expression, où tout peut se dire, ça n'a pas été du gâteau. Donc vous vous êtes dit ensemble, là il y a un tabou, on va se mettre à travailler là-dessus, ou bien est-ce que ça a été une commande? Comment ça s'est fait? Quel a été le vrai point de départ?
We, like many Americans, began to pay very close attention to American Middle East policy after September 11th.
Comme beaucoup d'Américains, on s'est intéressé de très près à la politique au Proche-Orient américaine après le 11 septembre.
After September 11th, it was clear to us that one of the reasons the United States was in such trouble in the Middle East was our special relationship with Israel. And the main reason we had a special relationship with Israel was the political influence of the Israel lobby.
Une des choses qui sautait aux yeux après le 11 septembre, c'était que pourquoi les États-Unis étaient si mal vus dans cette région du monde et dans le Proche-Orient, c'est parce qu'on avait cette relation très particulière avec l'État d'Israël. Et pourquoi on avait cette relation très particulière avec l'État d'Israël, c'est parce qu'on avait ces groupes de pression et ce lobby pro-israélien aux États-Unis.
We were eventually asked to write an article about the Israel lobby for a magazine, for the Atlantic Monthly.
C'est le Atlantic Monthly qui nous a commandé d'écrire un premier article sur le lobby pro-israélien aux États-Unis.
Et ça, c'était en 2002?
2002. And we completed our article in 2005, having shown them all of our preliminary drafts, which they had liked. But when we sent them the final version, they told us they were not going to publish it.
Donc on a fini en 2005, et au cours de route, on leur a envoyé tous nos travaux préparatoires, intermédiaires, mais quand on leur a envoyé la version finale, ils ont dit qu'ils refusaient de le publier.
Quelle était la raison de leur refus? Ils ont donné une raison à leur refus?
Not particularly, and they didn't give us the opportunity to rewrite it. In other words, If they didn't like the article, they could have said these things have to change before we can publish it, but ouais, they didn't say that.
Ils n'ont pas donné de raison claire et surtout ils ne nous ont pas donné l'opportunité de réécrire parce qu'ils auraient très bien pu dire oui, bah, vous reprenez ça, vous reprenez ci. Non, c'était un non ferme et définitif.
I believe, although I cannot prove, that they simply got cold feet about publishing such a controversial article.
Moi, je crois, même si j'en ai pas la preuve, qu'ils ont tout simplement eu la pétoche de publier ce livre une fois qu'ils l'ont eu sous les yeux.
In fact, by the summer of 2005, we had given up on the project completely.
Tant et si bien qu'à l'été 2005, on avait abandonné toute idée de publier ce travail.
And then we eventually were put in touch with the editor of the London Review of Books, who got a copy of the manuscript and liked it, told us that she wanted to publish it, and it eventually was published in March 2006 in the London Review.
Et c'est la London Review of Books qui a eu une version de notre travail, qui a trouvé ça intéressant et qui a fait que ça a été publié en 2006.
London. London, c'est-à-dire en Angleterre.
Yeah, that's right. Once the article became so widely known, book publishers became very interested in having us do a longer book version.
C'est à partir du moment où l'article a été lu par énormément de gens que les éditeurs seront intéressés à faire une version plus longue.
And we wanted to do that because it allowed us the opportunity to lay out our case in more detail, to address criticisms that had been raised of the original article, and to present a much fuller depiction of the way in which the lobby worked and its impact on American policy.
Et nous, ça nous a intéressé parce que non seulement on pouvait travailler plus en détail, on pouvait aussi répondre à certaines des critiques qui nous avaient été faites et faire un portrait beaucoup plus précis, beaucoup plus détaillé de ce lobby pro-israélien.
Alors le livre a eu un très grand succès aux États-Unis et les textes publiés dans la London Review of Books ont fait l'objet de quantités de lectures et de téléchargements à travers le monde. Le livre a été traduit dans plus d'une vingtaine de langues et les deux auteurs n'ont pas cessé depuis de donner des conférences, des entretiens, des débats de toutes sortes, de répondre à des critiques parfois fondées, parfois évidemment d'autres tout à fait infondées, comme celle de, évidemment, je le répète encore une fois, ils ont été taxés d'antisémitisme, par exemple l'Anti-Defamation League dont nous parlerons, par des chroniqueurs, que ce soit aux États-Unis à travers le New York Sun, le Wall Street Journal, le Washington Post ou même le Jerusalem Post. Mais s'il y a eu ces attaques, les unes tout à fait stupides et injustes, les autres fondées après tout, parce que reprenant certains de leurs arguments ou discutant ou polémiquant avec eux, dans l'ensemble et même la grande majorité des réactions finalement ont été intéressées, voire favorables, et y compris en Israël. En Europe, les deux chercheurs ont fait une tournée pour la promotion de leur livre, mais il y a un pays dans lequel ils ont été assez froidement accueillis. Voilà ce que nous dit par téléphone l'autre auteur, M. Mearsheimer. Et quel a été l'accueil en France quand vous êtes venu en France?
Before we went to Europe to publicize our book, Tony Judt told me that the only country we would have trouble promoting our book in would be France.
Bah, avant d'aller faire notre tournée promotionnelle en Europe, Tony Judt m'a dit que le seul pays où on aura des problèmes pour parler de notre livre, ce sera la France.
I did not believe him when he told me that.
Et je le croyais pas quand il m'a dit ça.
But it proved to be true.
Mais ça s'est avéré vrai.
It was the only country in Europe, indeed the only country in the world, where we had trouble publicizing the book.
C'est le seul pays en Europe et même le seul pays au monde où on a eu des problèmes à faire la promotion de notre livre.
Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir changé les choses avec votre livre?
The many conversations I have had with people over the past 3 years.
Avec toutes les conversations que j'ai eues au cours des 3 dernières années.
Indicate to me that we have had a significant effect on how many people think about the US-Israeli relationship.
Et ça m'a apporté vraiment le sentiment que effectivement notre livre avait eu une influence sur la manière dont les gens pensent le problème israélo-arabe, israélo-palestinien.
I think we have also had some impact on how people talk about it in the mainstream media.
Je pense qu'on a eu aussi un petit effet sur la manière dont les gens parlent de cette question-là dans les grands médias américains.
Which I think we have helped promote.
Et je pense qu'on a joué un rôle là-dedans.
But I do not think that we have had a meaningful impact on the policy process.
Mais je pense pas qu'on ait eu un impact sensible sur la décision politique.
Voilà deux chercheurs, donc des intellectuels professionnels, qui osent affronter le terrorisme intellectuel. Parce que c'est bien de cela qu'il s'agit lorsqu'on dit le mot tabou, quand on prononce le mot tabou. Le terrorisme intellectuel, c'est une pratique qui, au moyen d'arguments et de procédés tels que des publications, des interventions dans les médias, vise à intimider pour empêcher la formulation d'idées gênantes, que les idées visées soient fausses, vraies ou discutables. On parle aussi de police de la pensée, et ça ne date pas d'hier, puisque Montaigne parlait déjà de tyrannie parlière, Renan de tyrannie spirituelle, etc., etc. On pourrait penser que le rôle, justement, de ces chercheurs et de ces intellos, c'est de lutter contre ce terrorisme intellectuel qui inhibe et qui intimide. Eh bien, Walt et Mersheimer l'ont fait. Mais, encore une fois, il est important de définir les mots, de donner tout leur sens aux mots, et le sens qu'ils donnent et que l'on donne aux mots, les mots n'ayant pas le même sens de chaque côté de l'Atlantique. Le lobby pro-israélien et la politique étrangère américaine, on est avec Stephen Walt. Moi, il y a évidemment un mot qui, pour la France, est très... Rien que ce mot fait tout de suite cabrer les esprits, c'est le mot lobby attaché, lié à pro-israélien. Alors, il faut simplement, puisque vous êtes prof, que vous nous rappeliez ce que sont les lobbies aux États-Unis.
In the United States, there are lots of different interest groups or lobbies that work openly in the political system.
Aux États-Unis, il y a plein de groupes d'intérêt ou de lobbies qui travaillent ouvertement dans le système politique.
So we would talk about the farm lobby.
Par exemple, le lobby des fermiers.
Or the gun lobby.
Le lobby des armes, NRA.
NRA. Or the Cuban lobby.
Ou même le lobby cubain.
And the Israel lobby is essentially like all of those other groups.
Et le lobby israélien est comme tous ces groupes, n'est pas différent de tous ces groupes.
Et ça n'a rien de secret, hein, ça n'a rien de secret les lobbies, au contraire, ça a pignon sur rue.
No, it's not a conspiracy, it's not a secret, it's right out there in the open.
C'est vraiment au grand jour.
The lobby is a loose coalition of many different groups and individuals.
C'est un lobby, c'est une coalition plus ou moins tenue de groupes très différents et d'individus.
Who all agree on one thing. They want the United States to have a special relationship with Israel and to give Israel nearly unconditional support.
Ils ont un point commun à tous, c'est ils veulent que les États-Unis aient une politique de soutien inconditionnel à Israël.
Also very important that it is not a Jewish lobby.
Et c'est très important de noter que c'est pas un lobby juif entre guillemets.
Some groups in the lobby are predominantly Jewish.
Il y a des groupes bien sûr qui se définissent comme juifs.
But many American Jews don't support those groups.
Mais beaucoup de juifs américains ne se reconnaissent pas et ne soutiennent pas ces groupes.
And there are other parts of the Israel lobby that aren't Jewish.
Et il y a aussi d'autres parties de ce lobby israélien qui ne sont même pas juifs.
So called Christian Zionists.
C'est des sionistes chrétiens.
Ils sont très très nombreux et très puissants.
Yes. But the point is, it's an Israel lobby, not a Jewish lobby.
Mais c'est ça qu'il faut bien voir et bien avoir en tête, c'est un lobby pro-Israël et c'est pas un lobby juif.
And what it's doing is a completely normal and legitimate form of political activity.
Et ce qu'il fait aux États-Unis est une manière de faire de la politique tout à fait normale et tout à fait légitime ici aux États-Unis.
It's probably in terms of influence, say, on the U.S. Congress, surveys of congressmen and their staff have indicated that it's one of the two or three most influential and powerful lobbies in Congress.
Oui, il y a des enquêtes qui ont été faites sur les membres du Congrès et leur personnel politique qui montrent que c'est un des deux ou trois groupes d'influence, groupes d'intérêt les plus puissants sur le Congrès des États-Unis.
groupe d'influence puissant sur le Congrès des États-Unis. En effet, on le voit à travers les discours d'allégeance faits par les candidats à la présidence, mais c'est le cas aussi de tous les candidats au Congrès, que ce soit au Sénat, la Chambre des représentants, tous font allégeance à l'EPAC, que ce soit dans n'importe quel état des États-Unis. On nous l'a dit à plusieurs reprises, il serait absolument inconcevable d'avoir la moindre chance d'être élu si on affichait un quelconque soutien à la cause palestinienne aux États-Unis. C'est donc dire la force. Alors comment ça s'exerce? Comment ce lobby exerce? Eh bien, comme tous les autres, en intervenant lors des élections, qu'elles soient sénatoriales ou présidentielle, par le financement des candidats. Mais pas un financement direct, bien entendu, mais un financement indirect par des systèmes très simples de pression. On va, par exemple, faire financer le candidat opposé, l'autre candidat. Et ça va être par des conseils donnés à des bailleurs de fonds, à tous ceux qui veulent soutenir. On les oriente. C'est pas directement le... Alors comment ça fonctionne? Voyons ça d'un peu plus près. On va tout de suite, évidemment, c'est tout à fait normal, aller faire un tour à l'EPAC. Encore une fois, pas de complot, rien à voir avec quelque chose qui serait tapis dans l'ombre, mais pignon sur rue, building, nous voilà au siège de l'EPAC, le nouveau siège de l'EPAC à Washington DC, où nous sommes reçus par le tout à fait jovial et cordial Josh Block. Et vous êtes Monsieur Block?
Josh Block.
Josh Block, ça c'est un beau nom, hein? Josh Block. Ça claque. Voilà, nous voilà donc dans l'immeuble de l'EPAC à Washington. Alors, est-ce que vous pouvez nous faire une présentation un peu rapide de l'EPAC?
AIPAC is America's pro-Israel lobby.
L'EPAC est le lobby pro-israélien des États-Unis.
It's an organization of hundreds of thousands of Americans.
Ça représente des centaines de milliers d'Américains.
Of all faiths and backgrounds.
De toutes les foi et de tous les parcours individuels.
Who care about a strong U.S.-Israel relationship.
Qui sont soucieux d'avoir des liens forts entre Israël et les États-Unis.
Voilà, tout simplement. Création, histoire, historique.
AIPAC was founded in the 1950s.
Ça a commencé dans les années 50.
It's a bipartisan organization that works with both Democrats and Republicans.
C'est-à-dire que c'est une association apolitique qui travaille et avec les démocrates et avec les républicains.
It has no political action committee. It makes no contributions of money of any kind to any candidate's campaign.
Elle ne finance aucun des candidats et aucune des campagnes des candidats américains.
Ni directement ni indirectement.
Zero money. AIPAC does not contribute money to campaigns. It doesn't have an organization that does that. It is purely
zéro.
An education organization and a lobby.
Zéro argent. On n'a pas de fonds. On n'a pas les structures juridiques qui permettent de financer des campagnes. On est juste une organisation de lobbying et d'éducation.
Sometimes I think in France or in Europe, lobbying is perceived as undue influence or born out of.
J'ai l'impression qu'en France et en Europe, souvent le lobby est vu comme une influence. Injuste.
Ah oui, oui. C'est péjoratif, le lobby.
Yeah, okay, so this is a very important thing to understand both about America and American society and American politics.
C'est quelque chose de très important de comprendre à propos de la politique américaine et de la société américaine, la manière dont on fait de la politique ici.
Mais alors, je note quand même que vous avez 100 000 membres, que vous avez 70 associations qui sont affiliées à l'EPAC, ce qui est quand même imposant, important, et que vous revendiquez 4 millions d'électeurs dans les États clés.
Well, the Jewish community in America is just 2% of the population.
La population juive aux États-Unis, c'est que 2% des électeurs.
The percentage of Americans who say that America's relationship with Israel is important to them is 75-80%.
Mais par contre, le pourcentage d'États-Unis d'Américains qui disent que la relation avec Israël est très particulière, c'est 75-80%.
I don't want to make your trip to the United States not worthwhile, and I don't
want to. Que vous ayez raté l'occasion de votre voyage aux États-Unis.
I don't want to pierce the bubble or the mystique of AIPAC's power.
Je veux pas non plus dégonfler toute la mystique qu'il y a sur le pouvoir supposé de l'AIPAC.
But when you stand up in the United States and you speak out and support a strong relationship between the United States and Israel, between the United States, it's a democracy that believes in freedom of speech and women's rights and gay rights and the rights of the minority, and you look at the Middle East, you only see one country that shares those values. And so when you lobby for America, it's like pushing on an open door.
Mais en même temps, c'est vrai que quand on est lobbyiste aux États-Unis, quand on se tient pour des causes de démocratie aux États-Unis, de droits des femmes, de droits des enfants, de droits des sociaux, et qu'on se bat pour toutes ces causes-là et qu'on regarde la situation au Moyen-Orient, il n'y a pas 36 États qui reportent ces valeurs-là. Et donc faire du militantisme pour encourager les liens particuliers avec Israël, c'est comme enfoncer une porte ouverte.
Alors très bien, enfoncer une porte ouverte, voilà une présentation par Josh Bloch de l'EPAC. Évidemment, la question qui nous brûle les lèvres, c'est de savoir comment le livre de Walt et Mersheimer a été reçu, a été lu par l'EPAC même. Et là, y a un petit changement de ton chez notre très sympathique et communicant Josh Bloch. Sur le lobby et sur l'EPAC, il y a deux analyses. Il y a ceux qui considèrent que c'est un lobby qui n'a pas une influence prépondérante, et puis il y a ceux qui considèrent que le lobby est tout puissant. Et c'est le cas de Walt et Mersheimer, parce que ça, on va en parler, qui sont les auteurs de ce livre intitulé « Le lobby pro-israélien ».
Listen, I've never responded directly to a particular book like the one that you mentioned.
J'ai pas répondu particulièrement à un livre comme celui que vous mentionnez.
The reason is because there is pretty much every serious person who's been a member of the American foreign policy and political establishment has already said everything there's that could be said about the reality of American policy and the baselessness of that book.
C'est pour ça que j'ai pas parlé aussi de ce livre en particulier. Sans jamais le mentionner d'ailleurs, c'est parce qu'il y a eu des dizaines de chercheurs et de gens de la scène politique et intellectuelle américaine qui se sont déjà affairés à montrer l'absence de base, l'absence de fondement de tout ce qui est dans ce livre dont vous parlez.
If I wrote a book about Congress,
si je faisais un livre sur le Congrès,
and how Congress makes its decisions, but didn't
sur comment le Congrès prend ses décisions sans interviewer un seul membre du Congrès,
because I said I knew already what they would tell me.
Parce que je disais, mais je sais déjà ce qu'ils vont me dire à l'avance.
Would you think I was engaged in meaningful scholarship?
Est-ce que ça c'est un travail universitaire significatif?
You know, Strobe Talbott, David Gergen, Walter Russell Mead, Leslie Gelb. These are the eminence grace of American
voilà, le nom
foreign policy and
de
politics.
Toutes les spécialistes éminents de la politique étrangère américaine.
And these are not polemicists. They're
ce
not cheerleaders for the pro-Israel movement in America.
Ce sont pas des pom-pom girls du mouvement
quite
pro-Israël. C'est même plutôt l'opposé.
But these are people who say quite forthrightly, America's interests are aligned with a strong relationship with Israel.
C'est eux, ils disent d'une manière très directe, les intérêts américains sont alignés sur la relation particulière avec Israël.
Non, mais je voudrais quand même qu'on reste un petit peu sur le livre, parce que vous le balayez comme ça d'un revers, mais il a eu quand même un grand écho, non seulement aux États-Unis, mais dans le monde, et notamment en Europe. Et la thèse centrale de ce livre, c'est de dire que le lobby, c'est-à-dire l'EPAC, a un trop grand rôle, et un rôle qui est néfaste à la politique étrangère des États-Unis, et néfaste aussi en Israël. Est-ce que c'est quelque chose que vous comprenez ou que vous rejetez complètement?
Again, I'm not criticizing any particular book.
Moi, attention, je ne critique aucun livre en particulier.
What I'm suggesting is the argument that says America would be better off and the world would be better off if we just wrote Israel off.
Mais c'est l'argument de base de dire que les États-Unis et le monde se porteraient mieux si on se débarrassait d'Israël.
It's a false paradigm.
C'est un faux paradigme, c'est un faux thème.
And the quarrel that critics of the U.S.-Israel relationship have.
Et cette querelle qu'ont eu les ennemis d'Israël et des États-Unis,
organizations like APAC,
c'est pas contre des organisations
Times,
contre APAC,
Journal,
ou le Wall Street Journal, ou le New York Times, ou Brookings Institution,
AI,
qui est un think tank,
all of
ou l'American Enterprise Institute, comme étant tous membres d'une espèce de grande conspiration.
Their argument is with the 80% of America for whom this is a
Mais
settled
c'est vraiment,
question.
C'est une question qui est réglée pour 80% des États-Unis, des Américains.
Oui. Now, in Europe, there is I would suggest, a very uninformed and backward view of how American politics and society
actually
works.
Mais je pense qu'en Europe, il y a vraiment une manière un peu arriérée et surtout faussée sur la manière de comprendre comment fonctionne la politique aux États-Unis.
And because of that misperception, people assign nefarious motives, one, to institutions like APAC, but also don't fundamentally understand that it is American society with whom these ideas are overwhelmingly popular that support a strong U.S.-Israel relationship and believe it's in America's interest.
Et du coup, ça fausse la vision qu'il y a sur des lobbies comme APAC, alors qu'encore une fois, elle repose sur le soutien inconditionnel d'une grande majorité de l'opinion publique américaine pour cette relation particulière de soutien à Israël.
Vous avez compris que c'était un sujet évidemment
névralgique, central et important. Conclusion provisoire avec Ibrahim Ward, que nous rencontrons à Boston, qui est un chercheur enseignant à Harvard et spécialiste en économie et qui est un lecteur très attentif du livre de Mersheimer et Walt.
Je crois que le livre de Walt et Mersheimer est un excellent livre et je suis en gros d'accord avec leur analyse qui dit que le système politique américain est sous l'influence de ce lobby et que cette influence est préjudiciable à la politique américaine. Donc si l'on en juge, forcément c'est un jugement subjectif, mais je crois que si l'on en juge par l'impopularité des États-Unis dans le monde au cours des années Bush, en partie à cause de ce soutien inconditionnel à Israël. Donc je suis tout à fait d'accord avec cette analyse. Et je crois qu'effectivement, il y a l'EPAC et d'autres groupes du même type qui exercent une influence énorme sur le système politique américain.
Une chose étonnante, choquante dans leur livre, c'est qu'ils expliquent comment l'un des lobbies le plus puissant, le lobby pro-israélien le plus puissant, c'est-à-dire l'EPAC, rédige les lois, ensuite, eh bien, le Congrès n'a plus qu'à approuver.
Oui, c'est l'un des rôles nouveaux des lobbies. C'est-à-dire que les lobbies, souvent, fournissent les informations aux législateurs américains. Et dans le cas de l'EPAC, ils vont plus loin encore, où ils rédigent souvent les lois. Et il y a eu une formule intéressante, que ceux qui écrivent les chèques sont ceux qui écrivent les lois. Une allusion au rôle de l'argent en politique aux États-Unis, où souvent les lobbies les plus influents sont si bien organisés qu'ils sont en mesure de rédiger la législation que le Congrès n'a plus qu'à approuver et à voter pour ou contre. Donc dans le cas de l'EPAC, le lobby est tellement bien organisé qu'ils ont souvent réussi à imposer les lois qu'ils voulaient. Cela dit, il faut aussi noter qu'il y a un contre-lobby qui représente un autre versant de la position des juifs américains, qui est de soutien à l'État d'Israël, mais l'opposition aux implantations, à la politique du gouvernement israélien face à Gaza et à la Cisjordanie. Il faut reconnaître le fait qu'il y a en fait en ce moment deux grands lobbies, le plus important restant l'EPAC, mais il y a même au moins une tentative de détrôner l'EPAC et de le remplacer.
Ce lobby s'appelle J Street.
Voilà, c'est le J Street. Yo,
APAC, come check my status. I'm acrobatic and emphatic when attacking Zionists. Ouais, APAC, viens jeter un œil. Je suis acrobate dans l'emphase pour m'attaquer aux sionistes. I can barely stand it cause I hear the same lines all the time. I take the words to wipe my behind. Je ne supporte plus parce que j'entends toujours la même chose. Leurs paroles, je me torche avec. Soundbites like slime oozing, grooving unoriginal. So wack, the arguments should be criminal. I can summarize their lines better than them. I'll give a free sampling to you, my friend. Des mots comme de la bile, rien d'original, totalement débile, on dirait des criminels. Ce qu'ils disent, je te le résume, facile. Israel only acts defensively and targets terrorists exclusively. Israël ne fait que se défendre et ne s'en prend qu'aux terroristes. Parce que tu vois, Israël, c'est la seule vraie démocratie dans la région. Si la Shoah te rend vraiment triste, alors tu dois soutenir l'État juif. Si tu le critiques, c'est que tu es rongé par la haine. Nous avons signé la paix, mais les Arabes l'ont rejetée en se faisant passer pour des victimes. Ils sont balèzes pour ça. Ce n'est pas notre faute s'ils se sont tirés en 48 quand les armées arabes ont tenté d'en finir avec notre petit État perdu au beau milieu d'une mer de haine arabe. Nous ne voulons juste qu'une petite parcelle de terre. Nous ferons la paix quand Arafat respectera nos clauses. Fais-moi confiance, c'est nous qui voulons la paix. Les terroristes sont comme une maladie pour Israël et l'ami des États-Unis au Moyen-Orient. Nous combattons le même ennemi. En 35 secondes, je te balance la rhétorique israélienne mieux qu'eux-mêmes, parce que leurs arguments sont faibles. Et je les ai tous entendus avant. Et ça ne tient pas face à la vérité. Et maintenant, c'est ce qu'il faut faire. Dire la vérité. Alors attention, la voici.
« C'était une nouvelle version du reportage de Daniel Mermet et Guy Vanctil aux États-Unis. Le lobby pro-israélien voyage autour d'un tabou. Merci à John Mersheimer, Stephen Walt, Josh Bloch et Ibrahim Wald. Pour protester contre les pressions exercées par le Conseil représentatif des institutions juives de France et l'ambassade d'Israël sur les journalistes du magazine de France 2 Un œil sur la planète, vous pouvez signer la pétition disponible sur le site www.mesopinions.com. Une pétition qui s'intitule « Défendons la liberté d'information ». Vous retrouverez toutes ces informations sur le site de France Inter, à la rubrique « Là-bas si j'y suis » et sur le site la-bas.org. À la technique aujourd'hui, Yann Bouillot et Gilles Gaillard, numéro du répondeur de « Là-bas si j'y suis », 01 56 40 37 37.
Du 15 au 21 octobre, venez à la fête de l'énergie pour faire le plein de conseils auprès de votre espace info énergie et réaliser des économies dans votre logement.
Pour participer aux animations près de chez vous, rendez-vous sur infoenergie.org ou au 0810 060 050, prix d'un appel local. Faisons vite des économies d'énergie, ça chauffe. Grenelle Environnement, entrons dans le monde d'après.
MMA, c'est aussi le premier réseau social d'assurance pour les professionnels ?
Bien sûr. Moi, j'exerce une profession libérale et je me suis inquiété du niveau de ma retraite. Je voulais de vraies réponses.
Et alors ?
Zéro tracas, MMA l'a fait. Grâce au diagnostic personnalisé retraite MMA, j'ai pu constituer pour moi et mes collaborateurs une retraite complémentaire dans un cadre fiscal avantageux.
MMA l'a fait ?
Bien sûr, c'est qui les clients pro ?
C'est nous ! Zéro tracas, zéro blabla, MMA !
Offre soumise à condition.
On fait quoi ?
Ça dépend. C'est combien le montant d'une jackpot loto de ce mercredi ?
8 millions d'euros.
8 millions d'euros ?
Ouais.
Bon, on met du rêve.
Hein. D'accord.
Et c'est quoi ? Tu fais quoi, là ?
Bah, une licorne.
Une licorne.
Un rêve à 8 millions d'euros, il y a une licorne ?
Loto, la chance appartient à tout le monde. Ce mercredi, jackpot loto de 8 millions d'euros. À partager au rang 1, voire règlement. FDJ.
Jouer avec XC comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
France Inter, partenaire des Nuits de Champagne, du 23 au 29 octobre à Troyes.
Je veux chanter.
Avec Catherine Ringer, Abdel Malik, Acha, Femi Kuti et le grand choral de Jean-Louis Aubert avec plus de 800 choristes. Retrouvez les Nuits de Champagne dans l'émission de Didier Barrault, Quand la musique donne, en direct et en public de l'espace Argence à Troyes, le vendredi 28 octobre à partir de 16h. Renseignements sur franceinter.fr.
France Inter, partenaire de la 40e édition du Festival d'automne à Paris, présente Olga Neuwirth à l'Opéra Garnier pour une soirée unique. Un hommage à Klaus Nomi, une apparition de Tom et Jerry et une infernale partition pour piano mécanique révèlent l'une des figures les plus libres de la musique d'aujourd'hui. Retrouvez Olga Neuwirth le 24 octobre à 20h à l'Opéra Garnier dans les émissions de France Inter et sur franceinter.fr.
Après les informations, on retrouve Frédéric Laudéon. Vous écoutez France Inter, il est 16h, passé de 30 secondes. Les informations, Laetitia Gaillet.
Nicolas Sarkozy confirme aujourd'hui, le chef de l'État n'exclut pas de nouvelles mesures pour protéger le triple A de la France. L'agence de notation Moody's menace de rétrograder la note française si elle ne tient pas ses engagements budgétaires. Cette annonce intervient au moment même où Berlin, de son côté, revoit à la baisse les prévisions de croissance de l'Allemagne pour 2012, 1% au lieu de 1,8%, la faute à la crise de la dette de la zone euro. D'ailleurs, Nicolas Sarkozy affirme prêt à se rendre dès aujourd'hui en Allemagne pour faire avancer la conclusion d'un accord sur l'avenir de la zone euro avant le sommet de dimanche. Il l'a dit ce midi lors d'un déjeuner avec les députés du Nouveau Centre à l'Élysée. D'après la presse allemande, Berlin souhaite élargir à 1 000 milliards d'euros la capacité de prêt du Fonds de secours européen. Pendant ce temps, en Grèce, les manifestations contre les nouvelles mesures d'austérité, elles, ont tourné à l'affrontement aujourd'hui, notamment à Athènes, Angélique Kourounis.
La place de la Constitution est à nouveau le théâtre d'affrontements entre une partie des manifestants grecs et la police. Après les avoir appelés à fraterniser, les manifestants ont jeté une pluie de cocktails Molotov sur les forces anti-émeutes qui gardent le Parlement. Une barrière en fer qui bloque la voulie grecque est l'objet de toutes les haines. Tout est bon pour la faire tomber. Pierres, morceaux de marbre, bouches d'égout, grilles en métal. Les manifestants ulcérés jettent dessus tout ce qui leur passe par la main. Pour l'instant, la police a riposté avec des gaz lacrymogènes et des grenades assourdissantes. Elle n'a pas encore fait usage de matraque. Le climat est extrêmement tendu. Une minorité de manifestants n'ayant qu'une seule chose en tête, entrer dans le Parlement et empêcher les débats parlementaires. Athènes, Angélique Couronis, France Inter.
Le gouvernement s'y était engagé, mais le versement des retraites au premier du mois est impossible. C'est ce qu'a expliqué aujourd'hui le directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse. La faute à la lourdeur du système informatique, il faudrait investir plusieurs dizaines de millions d'euros. Le versement des retraites restera donc au 9 du mois. Suite aux primaires socialistes, le CSA met aujourd'hui en demeure plusieurs médias, dont France Inter. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel leur demande de rééquilibrer les temps de parole. Nicolas Bonnemaison est soupçonné d'avoir abrégé les souffrances d'une huitième personne. C'est ce que dit aujourd'hui le parquet de Bayonne. Le médecin urgentiste est poursuivi jusqu'à présent pour euthanasie sur sept personnes âgées. Par ailleurs, on a appris ce matin que la famille d'une patiente décédée en avril avait décidé de se constituer partie civile pour avoir accès au dossier. Pas de suspension d'audience dans le procès Crombard. La cour d'assises de Paris a rejeté cet après-midi la demande des avocats du médecin allemand qui souhaitait une pause de 48 heures pour que leur client puisse se reposer suite à un malaise la veille. Mais elle promet, la cour d'assises de Paris, une pause demain matin pour s'adapter à l'état de santé de l'accusé. Enfin, juif ou pas juif, cette fois c'est fait. D'après la LICRA, Apple a de nouveau retiré aujourd'hui l'application iPhone de la vente en ligne. Cette application permettait d'avoir une liste des personnalités d'origine juive, ce qui avait suscité la colère des associations antiracistes, comme la LICRA notamment. 16h et bientôt 4 minutes sur Inter.
Quand la musique donne... Didier Varro.
Rock, musique électro, techno,
chanson, rap.
La musique d'aujourd'hui, en fait, de la musique moderne.
Quand la musique donne, les styles se croisent, se rencontrent et s'interpellent. Quatre musiciens qui utilisent leurs platines comme des instruments. Un auteur-compositeur qui visite toutes les contrées musicales. Arthur H, en pleine béatitude amoureuse, rencontre le groupe électro Birdie Nam Nam.
Quand la musique donne, tous les vendredis sur France Inter, à partir de 16h. France Inter. La différence.
Bonjour Frédéric Lodéon, c'est à vous.
Bonjour Laetitia Gaillet. Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous et merci d'être avec nous. Nous recevrons avec plaisir tout à l'heure, on l'attend en tout cas, et on est sûr qu'elle va venir, on croise les doigts en tout cas, Véronique Gens, superbe soprano, pour un disque Tragédienne, troisième volume, des héroïnes romantiques. On va entendre des auteurs tels que Méhul, Kreutzer, Gluck, Gossec et Mermet. Et oui, oui, il y a un Auguste Mermet qui a écrit de la musique vraiment tout à fait intéressante, dont Roland à Roncevaux par exemple. Et pour commencer, un disque tout à fait neuf, un autre, Divertimento en fa majeur de Mozart. Mozart âgé d'à peine 16 ans et qui commence à écrire pour le quatuor à cordes. Et évidemment, c'est un petit peu simple, c'est une musique jolie. Le rondo qu'on va entendre comporte un refrain joyeux comme une danse populaire, mais c'est déjà du grand art. Et en 2 minutes 24, il y a déjà plein d'idées, plein de savoir-faire. Et oui, il était vraiment génial, même au moment de sa puberté. Thank you. Le Presto, c'est un rondo du divertimento en fa majeur de Mozart interprété par le quatuor Eben. Et il y a aussi deux autres quatuors plus développés sur ce disque Virgin Classics. Encore un enregistrement tout récent, Olivier Moulin au piano avec Franz Liszt. Alors on célèbre très bientôt l'anniversaire de la naissance de Franz Liszt, il y a exactement 200 ans, ce sera samedi précisément, et je recevrai demain Jean-Yves Clément, écrivain, essayiste, commissaire de l'année Liszt, et on va parler de cet auteur génial, de ce pianiste phénoménal, et pour l'instant je vous propose une transcription, même un arrangement plutôt qu'une transcription, parce que Liszt écrivait de deux manières, soit de manière très scrupuleuse, par exemple quand il prenait une symphonie de Beethoven pour la faire jouer au piano, ou bien alors il écrivait de manière un peu libre quand il prenait un opéra, il faisait une paraphrase. Et là, il y a pas mal de liberté dans cette danse macabre d'après Saint-Saëns, bien évidemment.